Donc, je vous remercie d'être venu, même si vos effectifs déclinent de séance en séance. Ça veut dire que la patience s'émousse. Mais bon, donc, honneur aux valeureux qui résistent jusqu'au bout. Donc, je vous avais laissé dans le feuilleton interminable au début de l'année 1995, dans une période tout à fait morose, en même temps que l'on négocie ce qui entrera plus tard dans l'histoire sous le nom de l'accord d'Oslo II. Ça nous demande que le processus de paix n'est pas un long fleuve tranquille et entre d'une part les intentions des uns et des autres avec toutes les ambiguïtés que cela peut comporter, nous avons évidemment le passage au réel, c'est-à-dire l'abandon des ambiguïtés des textes pour les concrétiser sur des mesures de terrain. Et vous le savez très bien, le diable est dans les détails. Donc, nous avons devant nous, en ce début d'année, des partenaires affaiblis. Alors, les Américains tentent de lancer une initiative spectaculaire pour frapper l'opinion publique israélienne. On note comme d'habitude que les Américains ne prennent jamais en compte l'opinion publique arabe et palestinienne comme variable importante. Donc cette idée de faire venir en Israël le roi Hussein, le président Moubarak et Arafat pour faire une déclaration commune non seulement en faveur de la paix, mais contre ses ennemis. Mais immédiatement, Moubarak refuse car il s'en tient à sa ligne politique depuis son accès au pouvoir qui est de refuser de se rendre en Israël. Et donc on doit se contenter d'un sommet égypto-palestino-jordano-israélien au Caire le 2 février. Pérez, qui a toujours une ingéniosité verbale, baptise cela la coalition pour la paix. Et on convient de reprendre les négociations publiques sans lever le bouclage des territoires ou limiter la colonisation. On peut dire que Arafat et Rabin sont des partenaires affaiblis dont la survie politique dépend de celle de l'autre. C'est finalement ce qui fait tenir le système, c'est cette réalité qu'on ne peut pas faire machine arrière pour l'un comme pour l'autre. De plus, en Israël, le Chass, donc le parti religieux Chass, séfarade, abandonne son soutien au gouvernement et passe à l'opposition en invoquant la dégradation des conditions de sécurité. De ce fait, la coalition gouvernementale ne dispose plus que de 58 voix sur 120 à la Knesset et donc dépend pour sa survie du vote des 5 députés arabes. D'où la question de la légitimité des décisions du gouvernement, puisque l'opposition, la droite israélienne, affirme que Rabin ne dispose pas de la majorité du vote juif, ce qui pose toute la problématique de l'État d'Israël comme État juif et démocratique. Le 6 février, l'assassinat dans la bande de Gaza d'un vigile israélien revendiqué par le FDLP enraye le processus de désescalade. L'autorité palestinienne réagit en arrêtant des dizaines de membres du FDLP et un certain nombre de militants intégristes du djihad islamique et du Hamas. On dirait, pour reprendre l'expression américaine bien connue ici du cinéma, du cas du film Casablanca, ce sont les usual suspects qui sont arrêté. Mais de toute façon, c'est toujours un geste de la part d'Arafat, puisqu'en général, les fameux suspects sont rapidement libérés. En revanche, une cour de sûreté de l'État palestinienne est mise en place, dont les juges sont des officiers. Et cela, évidemment, crée l'inquiétude dans les milieux des militants des droits de l'homme. Et là aussi, c'est toute la problématique de l'autorité palestinienne qui est en cause, puisque, en quelque sorte, la demande sécuritaire implique un non-respect des droits de l'homme. Les Occidentaux sont pris dans leur contradiction d'exiger d'une part une autorité palestinienne démocratique, mais d'autre part une autorité palestinienne sécuritaire, et avec tous les problèmes que pose encore aujourd'hui, dans toutes les sociétés d'ailleurs, l'articulation entre la démocratie et la sécurité. En effet, on est dans une mauvaise situation quand le 9 février, Rabin rencontre Arafat à Eretz, comme d'habitude. Vous voyez sur la photo, la mine est sombre des deux acteurs. Rabin explique que l'arrêt des attentats est la condition sine qua non de la reprise du processus de paix. Comme il l'explique à une délégation européenne, je cite, « Après la signature d'Oslo, j'étais pour Israël l'homme de la paix. Nous avions 70% de soutien. Aujourd'hui, je suis l'homme des attentats. Le processus est à 30% de soutien dans l'opinion. Continuer la mise en œuvre de la déclaration de principe est aujourd'hui pour moi politiquement et pratiquement impossible. » Alors, les Américains essayent de prendre des mesures, comme la réunion des ministres des Affaires étrangères israéliens, égyptiens, jordaniens et d'un représentant palestinien à Washington le 12 février, ou l'annonce de la création prochaine de zones industrielles en Cisjordanie, Gaza et en Jordanie, avec entrée en franchise de droit aux États-Unis des produits ainsi fabriqués. C'est en fait là la genèse de ce qui prendra forme à la fin des années 90 et que l'on appellera les QIZ, Qualified Industrialized Zone, donc les zones qualifiées d'industrialisation ou industrielles, qui seront en quelque sorte des ateliers israélo-arabes de production industrielle dans lequel il suffira d'avoir 5 ou 10% de capitaux israéliens et 90% de capitaux arabes pour disposer d'une franchise de droits de douane aux États-Unis. En fait, ces quiz seront essentiellement réussis en Jordanie. Et sera un certain impact en Jordanie. Alors, ce sera un peu l'équivalent des maquiladores que l'on trouve en Amérique centrale, c'est-à-dire des ateliers de montage. Mais finalement, les principaux bénéficiaires des quiz, ce seront les Chinois, qui monteront des téléviseurs et autres produits dans les quiz jordaniennes pour les faire entrer sans droit de douane aux États-Unis. Autre facteur de tension, c'est la campagne que l'Égypte de Moubarak vient de lancer à l'occasion du renouvellement, cette fois pour un délai illimité, du traité de non-prolifération nucléaire. L'Égypte exige que Israël signe le traité de non-prolifération, ce qu'Israël y refuse, et le t'en monte Amin Moussa, qui est à l'époque ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, déclare que l'Israël doit chercher à s'adapter à la région et non à la dominer. Et Peres lui répond « Pourquoi voulez-vous que nous cherchions à dominer votre pauvreté ?» Ce qui montre la qualité des échanges durant cette période. Alors, on est toujours dans l'impasse politique. Rabin suggère une autonomie limitée pour simplement Jénine en Cisjordanie, avec maintien des troupes d'occupation et absence de policiers palestiniens. Et évidemment, c'est un rejet immédiat de la part d'Arafat. Donc, on a une impasse dans le processus de paix. On fait le recours habituel, c'est on envoie le secrétaire d'État américain, ici, Warren Christopher, dans la région. Et le but de Dennis Ross, donc je rappelle, c'est celui qui est chargé du dossier du processus de paix dans l'administration américaine. Je ne dis pas au département d'État parce que Dennis Ross dépend à la fois du département d'État et de la Maison-Blanche, ce qui la met en position très autonome comme acteur politique ou diplomatique. Donc, il voudrait obtenir une déclaration commune composée d'un engagement palestinien ferme de lutter contre le terrorisme, contre celui d'Israël de conclure l'accord intérimaire avant le 1er juillet. Mais en Égypte, Moubarak rejette la proposition israélienne d'adhérer au traité de non-prolifération 2 ans après la signature d'un accord de paix définitif au Proche-Orient. Donc, le seul accord que l'on arrive, c'est plus ou moins de se mettre d'accord pour que la signature de l'accord intérimaire soit a lieu avant le 1er juillet 1995. Parallèlement à Washington, les discussions entre ambassadeurs syriens et israéliens ont repris. On se heurte toujours au même problème de principe, dont la question de la démilitarisation des zones frontalières et de l'observation des déploiements militaires. Et les Américains s'inquiètent de ce que Rabin soit en telle position de faiblesse par rapport à son opinion publique, ce qui lui interdit de progresser dans le front syrien. Alors, on a à la fois la règle du jeu qui, du processus de paix qui est qu'à chaque fois qu'on est dans l'impasse ou dans une impasse entre Israéliens et Palestiniens, on fait semblant de bouger dans le dossier syrien, ce qui est un instrument de pression sur les Palestiniens. La difficulté dans la négociation, c'est la question, en dehors du retrait, celle du retrait israélien, c'est la question de la démilitarisation. Car le problème essentiel, c'est que Damas n'est pas très loin de la frontière. Donc l'exigence israélienne de démilitarisation conduit pratiquement à démilitariser la capitale syrienne, ce qui est évidemment inacceptable pour le régime syrien, puisque sa survie politique, comme on le voit de nos jours, dépend du contrôle militaire de Damas. En tout cas, 1995 est la dernière année possible de négociation, puisque 1996 sera une année électorale aux États-Unis. En mars, toujours des attentats suicides qui rejettent toujours la pression sur les Palestiniens, et les Israéliens font bien sentir que le 1er juillet ne peut pas être considéré comme une date butoir. Le 24 mars, le vice-président américain Al Gore se rend dans la petite enclave de Jéricho en compagnie d'Arafat. Il n'est pas question, pour raison de sécurité, de le faire venir à Gaza. Et l'Américain se contente de gestes symboliques et d'une présence, une promesse d'aide économique. Il faut dire que Jéricho dépérit complètement depuis qu'elle est devenue une zone autonome, puisque les barrages de l'armée israélienne aux sorties de l'enclave rendent très compliqué le moindre mouvement. Pour aller de Jéricho à Jérusalem, c'est-à-dire une demi-heure de route, il faut une autorisation préalable qui demande parfois des jours pour être obtenue. Alors, vous avez l'habitude, évidemment, pendant ce temps-là, il y a toujours la poursuite de cette guerre dite de basse intensité au Liban Sud, où le Hezbollah mène une guérilla très active contre l'armée israélienne et contre sa milice supplétive de l'ALS. Et on a donc une espèce de grammaire habituelle, attentat contre l'armée israélienne avec perte humaine, assassinat d'un cadre important du Hezbollah par deux missiles air-sol tirés par un hélicoptère d'assaut, tir de Katyusha sur la Galilée israélienne qui font un tué et deux blessés. Et on s'interroge pour savoir si l'accord informel qui préserve les civils marche encore. Le 2 avril, une explosion dans un atelier d'armement du Hamas à Gaza est d'abord considérée comme accidentelle. L'organisation islamiste dément et invoque un complot impliquant. Donc ça, c'est le résultat d'un tir de Katyusha sur le Liban, le territoire israélien, pardon. Et là, donc, c'est la manifestation du Hamas à l'enterrement des victimes de l'explosion. Le Hamas accuse Israël et l'autorité palestinienne. Ramin el-Fatah qualifie l'affaire d'accident du travail. On a cru à un moment que Yahya Ayash, dit l'ingénieur, se trouve parmi les morts, mais ce n'est pas le cas. Mais il était clair qu'à ce moment-là, il y a déjà une vraie obsession israélienne pour liquider Yahya Ayash, donc celui qui fournit les explosifs aux attentats du Hamas. Il est clair aujourd'hui, d'après les recherches, que l'explosion du 2 avril a bien été un attentat israélien et non pas un accident de travail. Et la tension est très forte puisque le Hamas accuse le Fatah de complicité dans l'action contre ces cadres. Et les manifestants du Hamas hurlent « Retournez à Tunis, nous resterons ici avec nos pierres pour faire face aux Juifs, nous voulons Haïfa, Jaffa, Ashkelon, nous voulons toute la Palestine. » 9 avril, une voiture suicide se jette contre un autobus israélien se rendant à la colonie israélienne de Kfar Darom dans la bande de Gaza, tuant 5 jeunes soldats et un civil israélien. Opération revendiquée par le djihad islamique. Un autre attentat de même genre frappe 2 heures après une jeep militaire près de la colonie de Netzarim, tuant un garde-frontière et en blessant 5. Cette fois, c'est revendiqué par le Hamas. ce sont les pertes israéliennes les plus lourdes enregistrées dans la bande de Gaza depuis 1967. On voit que le Hamas et le djihad islamique travaillent à imiter les méthodes du Hezbollah dans le Liban Sud. En même temps, les Israéliens voient que si l'attentat a lieu dans la bande de Gaza, c'est parce que les mesures de bouclage rendent impossible des attentats à l'intérieur des territoires israéliens lui-même. Pour le reste, la polémique est intense en Israël sur le coût des colonies de Gaza. Pour Shimon Peres, Netzarim, je cite, est une épine plantée dans le pied des contribuables israéliens qui doivent payer 10 millions de dollars par an pour assurer la sécurité de ses habitants, qui ne représentent que 28 familles. Mais pour Rabin, aucune implantation ne doit être démantelée avant que ne soit déterminé le statut définitif des territoires. Donc, on a les choses habituelles, nouvelles arrestations des suspects par l'autorité palestinienne. Mais en même temps, l'angoisse d'Arafat et de son équipe, c'est le risque d'une guerre civile à Gaza entre le Hamas et le Fatah. Et on a aussi les contractions, enfin les contre-représailles israéliennes. Le 17 avril, un commando israélien liquide 3 responsables du Hamas dans une opération en Cisjordanie à Hébron. Le 25 avril, on a une opération suicide de Hezbollah à Benjbeil au Liban Sud qui blesse 9 soldats israéliens. Les représailles israéliennes de bombardement de plusieurs villages du Liban Sud le 4 mai et des tirs légers, enfin des tirs du Hezbollah sur la Galilée israélienne en représailles, des représailles, des représailles, des représailles. C'est l'enchaînement habituel. Bref, le 3 mai 1995, c'est dans une situation de bouclage que le premier anniversaire de l'autonomie est célébré dans la morosité. En dépit de l'aide internationale qui s'engage à couvrir le déficit budgétaire de l'autorité palestinienne, le niveau de vie des territoires a continué de baisser. Sur 360 jours d'autonomie, on compte 200 jours de bouclage. Près de 100 000 travailleurs sans qualification ont été exclus du marché du travail israélien. Une dizaine de milliers de personnes mariées de plus de 30 ans sont autorisées à entrer les jours d'ouverture. Un habitant de Gaza résume ainsi la situation. On peut aller librement à la plage, mais nous n'avons jamais été aussi économiquement indigents. Et donc cette absence de dividendes de la paix, on trouve du côté palestinien, se répercute aussi du côté israélien en manque de sécurité avec la poursuite des attentats. Alors, notons que le 11 mai 1995, les Occidentaux passent en force et imposent la prolongation pour une durée indéfinie du traité de non-prolifération nucléaire. Les États arabes doivent se contenter d'une résolution qui, je cite, note avec préoccupation qu'il continue d'exister au Moyen-Orient des installations nucléaires non soumises aux garanties et réaffirme à cet égard la recommandation contenue au paragraphe 3 de la section 6 du rapport de la Grande Commission 3, engageant les États non partis au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui exploitent de telles installations à accepter les garanties intégrales de l'agence. Réaffirme qu'il importe que tous les États adhèrent au plus tôt au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et engage tous les États du Moyen-Orient sans exception qui ne l'ont pas encore fait à adhérer au traité dès que possible et à faire appliquer les garanties intégrales de l'agence à leurs installations nucléaires. Engage tous les États du Moyen-Orient à prendre dans les instances appropriées des dispositions concrètes pour progresser sur la voie notamment de la création au Moyen-Orient d'une zone exempte d'armes de destruction massive, nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs, effectivement soumises à vérification, et de s'abstenir de toute mesure susceptible d'empêcher la réalisation de cet objectif. Engage tous les États parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et en particulier les États dotés d'armes nucléaires, à offrir leur coopération et épargner aucun effort pour faire en sorte que soit rapidement créée par les parties régionales une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes autres armes de destruction massive et de leurs vecteurs au Moyen-Orient. On voit qu'Israël n'est même pas désigné nominalement dans le texte. Alors l'échec des États arabes dans la négociation, bien qu'ils ont été victimes de leur division, en dépit de l'activisme militant de l'Égypte. Certains voulaient conserver le principe d'un renouvellement périodique du traité, d'autres s'opposaient à la mention d'armement chimique, la Syrie en particulier. Ces jours-ci, on parle beaucoup de l'armement chimique syrien. C'est une démonstration qu'il existe, puisque la Syrie ne voulait pas qu'il fût mentionné dans la négociation de 1995. Alors ensuite, on a toujours, selon le schéma classique, de nouvelles confiscations de propriétés arabes dans la région de Jérusalem afin d'étendre les quartiers juifs. Saisie du Conseil de sécurité par les États arabes, veto américain au Conseil de sécurité pour un texte plutôt modéré qui ne faisait que confirmer l'invalidité des décisions israéliennes. L'ambassadeur américain à l'ONU, Madeleine Albright, explique qu'il ne s'agit pas d'une approbation de l'expropriation des terres par Israël, mais d'un vote de principe contre l'engagement du Conseil de sécurité dans le processus de paix au Proche-Orient. Pour elle, le statut de Jérusalem doit faire l'objet de négociations entre les deux parties, avec le soutien et sans ingérence de la communauté internationale. Autrement dit, la décision américaine se comprend par l'adoption implicite de la thèse israélienne que la déclaration de principe se substitue à la légalité internationale définie par les résolutions de l'ONU, y compris celle du Conseil de sécurité. Dans la négociation, on ne fait référence qu'à la résolution 242, qui est d'une extrême ambiguïté parce qu'elle a une pluralité d'interprétations. Et surtout, les Américains restent dans la mythologie de la négociation qui devrait permettre de régler tous les problèmes de façon pacifique. De surcroît, l'opposition républicaine fait campagne au Congrès pour le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem-Ouest. Un terrain a été retenu dans ce but, mais il fait partie des biens arabes confisqués par Israël en 1949 et les Palestiniens tentent de s'y opposer par la voie juridique. De façon très intelligente, ils vont d'ailleurs trouver des ayants droit palestino-américains sur le terrain et donc porter l'affaire devant les tribunaux américains, ce qui va aussi paralyser la possibilité du transfert de l'ambassade américaine, puisqu'après tout, ces palestino-américains peuvent dire que ce sont leurs droits de citoyens américains qui ont été bafoués par la confiscation israélienne. Et comme on est dans des situations d'indivision, pour un terrain de relativement important, on peut avoir une cinquantaine, une centaine d'ayants droit, compte tenu des systèmes successoraux et des propriétés qui sont restées par définition en indivision puisqu'ils ont été confisqués par les Israéliens. Arafat affirme que les États-Unis ont perdu la confiance du peuple palestinien et leur crédibilité auprès de ce peuple. Faisal el-Husseini évoque la possibilité d'une seconde intifada. Mais bref, on est dans cette morosité permanente avec une date butoir du 1er juillet auquel personne ne croit. Et on a les surprises parlementaires habituelles. Ainsi, les députés arabes de la Knesset projettent de déposer une motion de censure pour protester contre les confiscations de terres arabes à Jérusalem-Est. Le gouvernement israélien est obligé d'interrompre les confiscations parce que la droite israélienne pourrait voter la motion de censure et faire chuter le gouvernement Rabin, puisque les 5 voix des députés arabes sont cruciales pour faire la majorité dans un sens ou dans l'autre. Mais ça permet aussi de calmer la situation diplomatique, et Shimon Peres s'en prend à la droite israélienne qui préfère faire tomber le gouvernement plutôt que de construire l'unité nationale sur la question de Jérusalem. Toujours même routine, cette fois c'est une rencontre Peres-Arafat au Maroc chez Hassan II avec le 28 mai, avec l'engagement de conclure avant le 1er juillet. Et du côté de la Syrie, Rabin prépare l'opinion publique israélienne en évoquant la possibilité de démanteler une colonie israélienne du Golan durant la première phase du retrait et parle des conditions de la tenue d'un référendum sur le Golan. À Washington, les ambassadeurs se réunissent toujours. Généralement, un ambassadeur rencontre un second ambassadeur pour parler d'affaires d'ambassadeur, selon l'expression consacré. On en arrive à l'échange de ce qu'on appelle en anglais non-paper on the aims and principles of the security arrangements. Alors, un non-paper, c'est une invention diplomatique redoutable. C'est un document non signé qui n'engage pas. Les équivalents en français sont documents de travail, aide-mémoire, documents officieux, documents informels ou non-documents, c'est ce que donnent les dictionnaires. Je rajouterais que ce qu'on appelait aussi dans la diplomatie traditionnelle une note verbale. Donc les négociations israélo-arabes vont être constamment des échanges de non-paper. Jusqu'au moment où on devrait arriver à un accord, et à ce moment-là, on relie tous les non-papers ensemble et on les signe. Mais ça veut dire tant qu'il n'y a pas la signature définitive, tout ce qui a été proposé peut être retiré. Suite, nouvelle tournée de Christopher. La discussion tourne sur la question de la définition de la frontière. Rabin refuse toute mention écrite de la ligne du 4 juin 67 qui doit être exclusivement mentionnée que comme une idée américaine. Dennis Ross invente la formule contournée de la frontière basée sur les lignes du 4 juin 1967, ce qui permet de laisser entendre que ce n'est pas nécessairement la ligne du 4 juin 67 qui sera respectée. En plus, il faut déterminer où se trouve la ligne du 4 juin 67, ce qui est un problème supplémentaire. Assad répond que les retours aux lignes du 4 juin n'est pas négociable et que sans ce retour, il n'y a pas d'accord possible. Mais au moins, on se met d'accord pour une prochaine réunion des chefs d'état-major israéliens et syriens. La situation se calme relativement dans cette période, dans l'attente toujours d'un accord d'autonomie, tandis que au Liban Sud, le Hezbollah donne une interprétation stricte de l'arrangement tacite. Maintenant, toute mort de civils libanais du fait de l'armée israélienne est immédiatement sanctionnée par un tir sur la Galilée. Il en est ainsi le 15 juin après des raids israéliens. Et on semble ainsi repartir dans un engrenage d'escalade des deux côtés. Dans la seconde quinzaine de juin, entre autres, on a le 22 juin un tir de roquette du Hezbollah qui tombe sur un club méditerranéen à 5 km de la frontière, tuant un cuisinier français. Le 22 juin, un des principaux responsables du djihad islamique est assassiné à Gaza. Le mouvement islamiste accuse Israël de meurtre et menace de frapper au cœur de Tel Aviv. Il n'y a pas de revendication du côté israélien, mais l'accalmie risque de se terminer. Et il y a un attentat du djihad islamique qui fait 3 blessés légers du côté de la bande de Gaza. Arafat réplique avec l'habituelle arrestation des suspects et laisse clairement entendre qu'il y avait bien eu un accord pour la suspension des attentats. Dans cette dialectique des attentats et des accalmies, on entre dans les contradictions de la politique sécuritaire israélienne. Elle se fonde sur le principe de dissuasion qui comprend l'élimination physique des responsables d'actes de terrorisme, mais loin de dissuader les acteurs, ces assassinats ciblés provoquent de nouvelles violences, engendrant ainsi un cycle de représailles et de contre-représailles. De surcroît, ces assassinats, quand ils se produisent en période d'accalmie ou de trêve, sont particulièrement contre-productifs. Il semble que du côté israélien, il y ait une sorte de déconnexion entre l'appréciation politique du moment et l'opportunité d'ordonner un assassinat ciblé, à moins de prendre en compte la nécessité de se montrer ferme et fort devant l'opinion publique israélienne et tenir compte de l'esprit de vengeance et de punition que l'on camoufle sous la référence de restaurer la dissuasion israélienne. Et on aura ça, évidemment, dans les années 90, mais jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. En dépit de ce contexte, les chefs d'état-major syriens et israéliens se réunissent à Washington du 27 au 29 juin 1995 en présence de conseillers militaires américains. Le dialogue est âpre, tendu et technique, et porte sur les questions de sécurité avec la question sempiternelle de la profondeur comparée des deux pays à cause de la distance entre Damas et la frontière, mais aussi le problème de la carte. Sur une carte, la Syrie paraît bien plus grande qu'Israël. Mais si vous tenez compte de la partie habitée du pays, la différence de taille est bien moindre, puisqu'une grande partie de la Syrie est un désert. Donc, on négocie aussi sur ce point. Finalement, les Syriens font la proposition importante en proposant la formule 10.6. Autrement dit, il propose pour 10 km de limitation des armements du côté syrien, 6 km du côté israélien. Et là, c'est une offre assez acceptable pour les Israéliens. Reste quand même le point essentiel de l'exigence israélienne du maintien d'une station d'alerte sur le Golan, ou plus précisément sur le mont Hermon, qui surplombe le Golan et qui est une des grandes hauteurs de la région. Il y a de la neige éternelle sur le Hermon, donc ça vous donne l'altitude. Enfin, il y a actuellement de la neige éternelle, mais peut-être avec le réchauffement climatique, il n'y en aura plus. Alors, les résultats semblent prometteurs. Le 10 juillet, Ross et son équipe partent pour le Proche-Orient et la radio syrienne évoque la possibilité transactionnelle que la station d'alerte soit confiée à des forces internationales et amicales. Mais le 11 juillet, Hafez al-Assad rejette fermement le principe même d'une station d'alerte en territoire syrien. C'est un nouveau blocage de la négociation, même si le principe des rencontres entre ambassadeurs est maintenu. La dimension psychologique chez les décideurs doit être prise en compte. Rabin a l'inconvénient d'avoir tous les avantages en main, puisque les Israéliens contrôlent le terrain. De ce fait, la moindre concession est ressentie comme un abandon d'un élément concret contre une simple assurance verbale, alors que les Syriens ont fait savoir dès le début que ce seraient les lignes du 4 juin 67 ou rien. Le premier ministre israélien n'arrive pas à faire admettre à l'autre partie que la définition des frontières soit négociable. Assad rejette fermement une telle perspective et a les moyens de refuser la procédure imposée aux Palestiniens, c'est-à-dire le renvoi à une phase ultérieure du règlement des points les plus importants. De plus, Assad est assez allergique aux formules ambiguës que Ross multiplie afin de faire progresser les négociations. Assad a l'impression que depuis la conférence de Madrid, 4 ans auparavant, la Syrie n'a rien obtenu et que ses positions se sont affaiblies puisque les autres États arabes se servent des négociations israélo-syriennes pour justifier leur ouverture à Israël et la levée du boycott arabe. Au Liban Sud, l'armée israélienne enregistre de nouvelles pertes. Le 8 juillet, 2 enfants libanais sont tués par un tir d'obus antipersonnel, comme je vous le rappelle, prohibé par la Convention de Genève, sur la ville de Nabatieh. D'autres enfants sont blessés. Différentes autorités israéliennes reconnaissent que ces tirs étaient superflus ou constituaient une erreur. Le lendemain, le Hezbollah réplique par une salve de roquettes sur la Galilée sans faire de victimes ni de dégâts. Néanmoins, on négocie du côté israélo-palestinien. Et on négocie à plusieurs niveaux à la fois. Rencontre des délégations au Caire, entretien entre émissaires des deux côtés en Italie, médiation américaine entre les parties et à l'intérieur de chaque camp. Ross soutient les positions des négociateurs auprès de Rabin et d'Arafat. C'est-à-dire que Ross est un peu le médiateur entre les propres négociateurs et leurs patrons. Enfin, se déroulent d'importantes négociations économiques parallèles aux négociations politiques. Et enfin, il existe des émissaires privés faisant la navette entre Arafat et Rabin. Donc, c'est une scène complexe que cette négociation. À partir de cela, on en est arrivé à la définition d'une division de la Cisjordanie en 3 zones. La zone A, où les Palestiniens auraient le contrôle militaire et civil. La zone B, où les Palestiniens n'auraient que le contrôle civil, les Israéliens conservant le contrôle militaire. La zone C, qui serait exclusivement sous contrôle israélien. La discussion principale porte sur la zone B. Les Palestiniens insistant sur le partage des rôles, ils assuraient la sécurité des habitants arabes et les Israéliens celle des colons, ceux qui refusaient par l'autre partie. Mais jusqu'ici, dans la négociation, on n'a pas donné le contenu territorial des 3 zones. Le 23 juin, Uri Sabir communique la proposition israélienne. Elle est fondée sur les exigences des militaires qui eux-mêmes s'appuient sur le calendrier et la carte des voies de contournement des agglomérations arabes afin de séparer les Palestiniens des colons. La zone A serait composée des limites municipales de Jenin, Toulkarem, Kalkilia et Naplouse. À une date ultérieure définie par l'achèvement des voies de contournement, l'armée se retirait de Ramallah et de Bethléem. Hébron recevrait un traitement particulier en raison de la présence des colons juifs. La zone B couvrirait les villages de Cisjordanie et la zone C, les régions de faible peuplement et les colonies israéliennes. après les élections, Israël transférerait progressivement, en fonction de sa propre appréciation, la responsabilité de la sécurité pour les zones B et C, excluant bien évidemment tout ce qui pourrait mettre en danger la sécurité des colonies. Autrement dit, on demande aux Palestiniens d'accepter l'offre présente dans l'espérance d'obtenir mieux dans l'avenir. La réponse d'Abou Arla est nette. Nous sommes prêts à collaborer avec vous pour l'application de la déclaration de principe, mais ce que vous proposez s'éloigne des accords que nous avons signés. Vous voulez 90% des territoires et presque 100% de la responsabilité en matière de sécurité. Vous ne prenez aucun engagement sur ce que vous ferez ensuite et vous limitez notre liberté de circulation. Nous ne pouvons l'accepter. En fait, vous essayez de légitimer le statu quo par des changements infimes sur le terrain. Vous exercez un véritable contrôle de force d'occupation et c'est à ce titre que nous résistons. Ce n'est pas en changeant légèrement de moyens que vous pourrez obtenir de nous que nous consentions à laisser perdurer cette situation. Nous proposons le véritable changement promis par la déclaration de principe. Et les négociateurs palestiniens exigent la totalité de du dossier de la sécurité pour toutes les régions de peuplement arabe. Il n'est pas question de mettre la police palestinienne sous autorité israélienne. Et on ne peut traiter des éléments liés à l'accord intérimaire dans le cadre de l'accord définitif. Je cite, « Si nous acceptions votre approche qui maintient l'essentiel du territoire et de la sécurité entre vos mains, la Cisjordanie deviendrait un champ de bataille. Ce n'est pas là le but que nous poursuivons. La période intérimaire doit être une passerelle de coopération jusqu'à l'accord définitif. » Savir répond que ces propositions sont inacceptables. On ne peut pas aller au-delà tant qu'il n'existe pas de confiance entre les parties. Le Palestinien répond « Je peux vous assurer que la méfiance est réciproque. Vous pouvez toujours essayer de convaincre Arafat et si vous usez de votre force pour l'acculer dos au mur, il n'aura sans doute d'autre choix que d'accepter votre vision de la situation. Mais souvenez-vous d'une chose, si vous faites cela, vous le condamnerez à l'isolement. Un accord unilatéral ne tiendra pas. Vous devez trouver un moyen de garantir votre sécurité et d'équilibrer cet accord, si tant est que la sécurité soit votre seule préoccupation. Nous ne céderons pas d'un pouce sur la territorialité. » Et bref, les partenaires se séparent en colère. Le 28 juin, nouvelle rencontre des négociateurs. On met de côté provisoirement la question de la taille des zones pour se concentrer sur la définition des compétences réciproques de la zone B. Abou Arla propose une division du travail aux Palestiniens, le maintien de l'ordre, aux Palestiniens le maintien de l'ordre et aux Israéliens la lutte antiterroriste avec une coordination des activités. Ensuite, on transfère le dossier à un sommet à Arafat-Peres le 1er juillet à Eretz. Peres, en dépit de son discours qui se veut généreux, exerce un maximum de pression sur son interlocuteur sur les questions de sécurité, mais Arafat refuse de céder. Pour Rabin, il n'est pas question de transférer progressivement toute la Cisjordanie. Le principe de la division en trois zones est maintenant acquis. Il y aura une présence policière palestinienne dans la zone B et le reste du territoire sera transféré aux Palestiniens d'ici la mi-1997. 2 ans avant la fin de la période d'intérim et le règlement final. On se donne la date butoir du 25 juillet pour la signature de l'accord. On met alors en place toute une série de groupes de travail pour traiter de chaque aspect du transfert de compétences. Les Palestiniens refusent de bouger tant que l'on n'aura pas déterminé la taille de chaque zone, tandis que les Israéliens veulent obtenir tous les engagements de sécurité avant d'avancer leurs propositions en matière de territoire. Toute question définie comme technique a une valeur politique. Le nombre d'élus palestiniens au futur conseil est un symbole de souveraineté. Discuter de l'agriculture implique d'aborder le problème de l'accaparement par Israël des ressources en eau. Il en est de même pour la question des terres domaniales. L'ambiance générale est très mauvaise. Les Palestiniens ont lancé un mouvement de solidarité avec des milliers de prisonniers palestiniens en grève de la faim, ce qui fait l'unité nationale chez les Palestiniens. Les Israéliens promettent des libérations massives, mais après la conclusion de l'accord. Et Arafat dénonce un intolérable chantage. Finalement, le 5 juillet, Marwan Barouti, chef du Fatah pour la Cisjordanie, annonce la fin du mouvement. Rabin se heurte aux conséquences de la politique de ses prédécesseurs, tout en ne voulant pas reconnaître qu'il y a été largement associé. Je cite, « Une partie substantielle du programme de colonisation n'a pas été mise en œuvre pour des raisons de sécurité, mais au mépris de la sécurité personnelle de ceux qui y vivent. Dans ces localités isolées, il n'y a pas d'emploi, pas de débouchés. Il s'agissait seulement d'empêcher un éventuel règlement pacifique. » Sait-on que l'armée effectue chaque jour un millier de sorties pour protéger les cars scolaires qui transportent les enfants des colons? S'il y a aujourd'hui un paradis pour les terroristes, c'est bien grâce à la politique de dissémination systématique et de mélange des populations qui a été suivie. Grâce à elle, ce sont 10 à 20 000 cibles potentielles qui circulent quotidiennement sur les routes de Judée-Samarie. Mais en même temps, Rabin refuse tout abandon des colonies, alors que les mouvements de colons, loin de lui être reconnaissants, lancent une campagne de protestation massive. Ils établissent une implantation sauvage à Kfar Adoumin, à proximité de la ligne verte. Des rabbins extrémistes liés au Gouche Emouni, le Bloc de la Foi, le mouvement religieux des colons, émettent un avis religieux affirmant que la loi juive s'oppose à ce que l'on évacue des bases militaires pour les remettre à des goyes non-juifs, ce qui provoque l'indignation des laïcs en Israël devant ce qui est un appel à la désobéissance des soldats. Mais le gouvernement refuse toute poursuite judiciaire. L'assassinat le 18 juillet de deux jeunes Israéliens en Cisjordanie fait monter la tension. Les colons manifestent devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem pour demander sa démission. Le même jour, Ehud Barak est nommé ministre de l'Intérieur. Tout le monde le considère comme le dauphin de Rabin. Par la même occasion, Yossi Beilin prend le ministère de l'Économie. Le 21 juillet, des colons bloquent les routes de Cisjordanie et lapident les voitures palestiniennes. On déplace les lieux de négociation pour les mettre à l'abri des manifestations. Alors qu'on s'apprête à dépasser la date butoir du 25 juillet, le 24, un attentat fait 7 morts et 32 blessés dans un autobus à Ramat Gan, près de Tel Aviv. Le gouvernement israélien suspend provisoirement les négociations tout en refusant de donner un droit de veto aux radicaux islamistes sur le processus de négociation. Le président de l'État hébreu, Enzer Weissman, se fait le porte-voix de l'omission populaire en appelant le gouvernement à réfléchir à deux fois avant de reprendre les négociations. On manifeste sur le thème « Cette paix qui nous tue ». Un nouveau bouclage est imposé au territoire palestinien. Encore une fois, les services israéliens font porter la responsabilité de l'attentat sur Yahya Hayash. Le 27 juillet, un cadre important de la direction extérieure du Hamas, Moussa Abou Marzouk, est arrêté aux États-Unis, où il dispose de la carte de résident, la Green Card. Il a été récemment expulsé de Jordanie dans le cadre du raidissement de la position jordanienne face aux adversaires du processus de paix, et sa famille réside aux États-Unis. Certains de ses enfants ont la nationalité américaine. Le porte-parole du Hamas dans la bande de Gaza marque que l'intéressé n'a jamais eu d'activité criminelle sur le territoire américain. Le Hamas ne mène pas sa lutte contre l'Occident, mais contre l'occupation israélienne de la Palestine. L'autorité palestinienne maintient un profil bas. Le gouvernement israélien est embarrassé. Les juristes craignent que l'on ne puisse fournir des informations probantes pour justifier son extradition en Israël. Mais Rabin, écoutant les avis des chefs de services de renseignement qui le présentent comme l'ennemi public numéro un, passe outre. Le Hamas menace, la détention d'Abou Marzouk dans une prison israélienne incitera l'appareil militaire du mouvement à commettre des opérations militaires contre Israël et les intérêts américains. Fin de citation. L'autorité palestinienne ne voit pas l'intérêt d'ajouter de nouveaux facteurs de tension. Alors, de fait, l'affaire va prendre plusieurs mois devant les tribunaux américains pour savoir s'il doit être extradé ou non vers Israël. Une fois que les tribunaux américains donnent un accord pour l'extradition, l'intéressé fait appel ce qui rajoute de nouveaux délais. Donc, comme je sais que vous êtes impatient, que vous n'attendrez pas l'année prochaine pour savoir la suite, je vous dirai donc finalement en 97, Abou Marzouk renoncera à s'opposer à l'extradition en Israël et du coup Israël, bien embêté, renoncera à demander son extradition. Et de ce fait, il repartira pour la Jordanie. Mais ça, vous le saurez pour le cours de l'année prochaine. Pas de janvier prochain, mais de l'année suivante. S'il n'y a pas la fin du monde d'ici là. Le 31 juillet, l'armée fait évacuer une implantation sauvage près de Bethléem après un avis dans ce sens de la Cour suprême israélienne. L'enjeu est le contrôle des terres domaniales. Immédiatement, les colons réoccupent le lieu. Établissent de nouvelles implantations. Un rituel s'établit. Les colons s'installent sur une hauteur avec des tentes. Ils mettent en avant des femmes et des enfants pour faire face aux militaires israéliens qui ont la consigne d'user avec une extrême modération de la violence. Un ordre équivalent n'a jamais été donné quand il s'agissait de Palestiniens. La bataille des collines a clairement pour but d'empêcher la conclusion de l'accord d'autonomie. Une intervention du président Weizmann calme provisoirement la situation, mais ce n'est qu'une courte trêve. Les négociations reprennent de façon intensive, à Taba, mais on se heurte toujours à la même difficulté, c'est-à-dire de savoir quelle est l'étendue des zones A, B et C. Lors d'un sommet avec Peres le 10 août, Arafat cède sur le point essentiel contre l'engagement d'une présence policière palestinienne à Hébron. Après avoir obtenu l'accord de Rabin, Peres paraphe le protocole de Taba. Il peut triompher. L'accord laisse dans les mains israéliennes 73% de la surface des territoires, 97% de la sécurité et 80% de l'eau. Les Israéliens ont obtenu l'essentiel de ce qu'ils voulaient, un redéploiement en trois étapes distinctes sans précision sur la définition territoriale. C'est bien plus pour eux que ce que prévoyaient les accords de Camp David, qui prévoyaient un retrait unique sur des zones spécifiées à l'avance. Pourtant, lors des discussions au gouvernement israélien, Barak s'y oppose au nom de la nécessité de conserver des moyens de pression pour la discussion de l'accord définitif et il s'abstient durant le vote. Les réserves de l'ancien chef d'état-major et celles de l'actuel, qui craignent de pouvoir assurer la sécurité de la totalité des colons, sont rendues publiques. L'opposition de droite menée par Benjamin Netanyahou parle de bradage de la terre d'Israël et appelle un référendum avant toute application de l'accord. Alors, je vous laisserai en plein suspense pour faire une pause.